Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du jeudi 8 février 2024, émission régulière en direct des studios de Choc à l'UQAM ou en balado sur choc.ca. Les Apatrides, c'est votre rencard toutes les deux semaines pour 1h10 d'actualité locale et internationale sur le racisme ordinaire et systémique, les frontières, le profilage, la violence, la répression, les élections, la corruption et les migrations surtout. Salut tout le monde, dont les gens dans l'Ouest qui nous écoutent sur les ondes FM de Radio Victoria. Mon nom est Simon, je suis votre animateur et réalisateur aujourd'hui. Je suis en compagnie de Marie-Ève et Mathieu. Bonjour à vous deux.
Salut, salut.
Bonsoir, bonsoir.
Salut, donc vous serez en alternance au contenu parlé et à la console, et parfois les deux en même temps. Au menu aujourd'hui, Marie-Ève, détention et femmes migrantes, violence conjugale. Je ne sais
oui.
pas si je résume bien.
Oui.
Mathieu, actualité, police, profilage.
Oui, entre autres.
Et les trois, on va vous promener un peu partout ici, aux États-Unis, au Guatemala, en Australie, en France, au Royaume-Uni, au Darfour, au Soudan. Et bien sûr, on a un agenda de suggestions militantes et culturelles.
Et n'oublie pas la Palestine-Israël.
Ben ça, c'est ton giron.
Je te laisse,
mais tu vas nous en parler.
Et moi, c'est la France.
oui, dans pas long, la France.
Et Simon, c'est l'Afrique.
Oui, ben oui, je suis un fier. C'est moi qui fais des coups d'État. Là, comme ça, dans tout, qui organise
oui,
tout
ça.
Donc, avant de dire trop de niaiserie, on va y aller tout de suite avec notre jingle d'ouverture parce que le menu de l'émission aux Apatrides est, comme toujours, assez chargé. On commence cette émission avec quelques suivis sur le Royaume-Uni. Encore et toujours l'accord avec le Rwanda sur le transfert des demandeurs d'asile. La saga dure depuis déjà 2 ans. Les revers judiciaires et opérationnels se succèdent. Le dernier en date, c'est la suspension le 22 janvier de l'accord par la Chambre des Lords, qui est un peu l'équivalent de notre Sénat à Ottawa. L'accord n'est pas complètement mort, mais pour l'instant, ça le rend inapplicable.
Il n'est pas fort.
Disons que ça l'affaiblit de manière assez durable, puisque la Chambre des Lords, j'aime ça dire ça, demande au gouvernement de démontrer que le Rwanda est un pays sûr. Démonstration qui a été réclamée à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été faite de manière convaincante. Comme dit Marie-Ève, bonne chance. Mais les conservateurs n'en démordent pas. Ils tiennent à cet accord coûte que coûte. Ils sont même en train de se déchirer entre eux. Il y a eu 2 démissions de gros bonnets conservateurs. J'aime ça dire gros bonnets conservateurs. Petite statistique, gracieuseté d'Info Migrants. 90% des réfugiés actuellement au Rwanda vivent dans des camps, certains depuis plus de 20 ans. Donc, c'est dans ce pays très sûr que Rishi Sunak veut envoyer les demandeurs d'asile. Pour introduire Marie-Ève, quelques mots sur la France qui, parallèlement, elle aussi est...
Déchirée,
complètement embourbée dans des joutes parlementaires compliquées. Il y a le Conseil constitutionnel qui, à l'instar de la Chambre des Lords à Londres, a infligé une petite mornifle au gouvernement Macron en invalidant plusieurs dispositions de la réforme mammouth de la loi sur l'immigration ou loi Darmanin. Il est partout Darmanin, c'est fatigant. 35 articles censurés sur 86, donc censurés, c'est le jargon administratif français pour dire invalidés. Ça veut dire que 2/3 des éléments demeurent, et dans la liste, il y a de quoi rendre très heureuse Marine Le Pen, entre autres, pour cette réforme qu'on a qualifiée de victoire idéologique de l'extrême droite. Qu'est-ce qui prend le bord suite à cette censure du Conseil constitutionnel? D'abord, la limitation d'accès aux prestations sociales pour les étrangers, le resserrement des critères du regroupement familial ou encore la caution retour étudiante qui consiste pour les étudiants étrangers à bloquer un montant d'argent avant d'arriver en France, un montant qui servira à rentrer dans leur pays une fois leur visa expiré. Il n'y a plus rien maintenant dans la réforme qui concerne ces 3 points-là et ni qui concerne les étudiants étrangers en général. Par contre, beaucoup d'éléments demeurent, comme tout ce qui concerne le durcissement sur les obligations de quitter le territoire français. Aussi, on ne mettra plus de mineurs isolés en centre de détention, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, sauf qu'on ne prévoit aucune alternative de logement. On garoche ça vers les associations, les collectifs, les bénévoles, et ça a énormément choqué parce que cette mesure-là, on la rendait applicable 24 heures après avoir été promulguée en plein hiver. Autres éléments maintenus, et ma liste n'est pas exhaustive, loin de là, il y a aussi l'augmentation de l'exigence du niveau de connaissance du français, tiens, et l'obligation de signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République, n'est-ce pas sans nous rappeler le test des valeurs?
La charte des valeurs,
c'est
hein?
ça. J'aimerais dire quand même que le Conseil constitutionnel a jugé que le tiers des articles de cette réforme sont contraires aux principes républicains français. Donc, faudrait-il expulser les auteurs de cette réforme, Darmanin en tête? Je pose la question. Marie-Ève, voilà, la table est mise pour...
Je ne risquerai pas de réponse. Je crois qu'elle va de soi. Moi, je vais commencer mon bloc parce que, les dernières émissions ont été consacrées au bilan 2023, entre autres. Mais imaginez-vous donc, il restait des grenades, des petits chiffres
On va les prendre avec plaisir.
Et qui vont illustrer le paradoxe français. D'un côté, le pays a délivré un nombre record de un peu plus de 323 000 premiers titres de séjour, une hausse de 1,4% par rapport à 2022. Et puis de l'autre, on note une augmentation de 10% des expulsions pour dépasser la barre des 17 000. Ça, c'est selon le rapport annuel sur l'immigration du ministère de l'Intérieur. Concernant les titres de séjour, la majorité sont étudiants. Ils viennent ensuite ceux pour le regroupement familial, qui ont connu toutefois une baisse de 5% par rapport à 2022, okay. Suivi de ceux pour des motifs économiques qui, eux, ont augmenté de 5%. Enfin, viennent les régularisations de personnes sans papier, qui ont, elles, été là, quasi stables. Ça a augmenté même pas un demi point de pourcentage. Près de 34 500. Puis ça comprend une augmentation des travailleurs sans papier régularisés au nombre de 11 400. Si on regarde la provenance des personnes qui ont reçu un premier titre de séjour, le tiers concerne des pays du Maghreb. Pour les renvois, le Maghreb arrive quand même là aussi premier, fait que c'est un peu bizarre. Il arrive puis repartent, suivi de l'Afrique subsaharienne et de l'Europe centrale. Ce cher Gérald Darmanin, justement, s'est aussi félicité des près de 4 700 étrangers dits délinquants renvoyés dans leur pays d'origine en 2023, contre 3 600 en 2022. Donc, une augmentation
ça va
de
30%. Ça va augmenter parce que dans la réforme qui sera adoptée, il y a le durcissement par rapport aux crimes mineurs. Même,
c'est ça. Autre chiffre, près de 62 000 personnes ont acquis la nationalité française en 2023. C'est quand même une baisse de 22%. Le chiffre le plus faible aussi, selon le ministère, là, depuis 2018, puis qui s'expliquerait aussi, un autre lien avec ce que tu disais, Simon, par un rehaussement du niveau de maîtrise du français qui est exigé depuis 2020. Mm-hmm. Enfin, la France a enregistré 145 500 premières demandes d'asile. C'est une augmentation de 6%, mais c'est quand même une augmentation qui est nettement inférieure à la moyenne européenne. Bon, on le sait, par exemple, l'Allemagne, elle, a connu une augmentation de 51% des dossiers de demandes d'asile.
Il n'y a pas en France la notion de travailleur temporaire. On dirait que ça ne semble pas être une catégorie. Je sais que l'expression métier sous tension qui existe, là, mais je ne suis pas sûr que c'est une catégorie en soi.
Je pourrais pas dire. Une particularité de la France aussi, c'est que qui la distingue entre autres là, du Québec, c'est la pratique massive des contrôles aléatoires d'identité par les forces de l'ordre dans la rue. Puis quand je dis massive, là, je pèse mes mots, puisque selon le rapport de la Cour des comptes, qui est un genre de vérificateur général, qui est sorti à la fin décembre, il y a tous les ans environ 47 millions de contrôles d'identité.
Wow.
20 millions qui sont faits par la gendarmerie et 27 millions par la police. C'est la première fois qu'il y a une véritable estimation du nombre de contrôles d'identité là annuels qui sont faits par les corps policiers. C'est impossible, par exemple, de connaître l'origine des personnes contrôlées parce que les statistiques ethniques sont interdites en France, contrairement au contrôle au faciès.
Ah ben oui.
mais il y a un sondage quand même là, sur 5000 personnes qui a été réalisé par les équipes de la Défenseur des droits, qui date quand même de 2016, là, qui avait établi que les jeunes noirs ou arabes avaient une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés.
On s'en doutait un peu.
Un peu, oui. Je prends une pause de chiffres pour vous parler d'une mobilisation qu'on voit pas souvent, c'est-à-dire celle des médecins étrangers. C'est que depuis le 1er janvier dernier, ceux qu'on appelle les PADU, les praticiens titulaires d'un diplôme obtenu hors Union européenne, qui sont dans 2 et 3 000 là, environ, un quart des effectifs des hôpitaux en France, eh bien, qui risquent, ces PADHUE risquent d'être licenciés de leur poste faute de renouvellement de leur contrat, de là la mobilisation pour réclamer leur maintien en poste et la régularisation de leur situation administrative. Petite mise en contexte, on le sait, depuis plusieurs années, la pénurie de main-d'œuvre a conduit beaucoup d'hôpitaux là, et d'établissements de santé à recruter des médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Puis, eux, ben, ils pouvaient espérer ce qu'on appelle une autorisation de plein exercice après une longue procédure qui dure plusieurs années puis qui est un peu compliquée, mais qui ressemble à ce qui se fait aussi ici là, pour l'obtention d'une équivalence des compétences acquises à l'étranger.
D'un mélange de stages et de cours.
Exactement. J'imagine. Donc, ces praticiens-là devaient premièrement passer un concours sélectif appelé épreuve de vérification des connaissances, puis ensuite faire un genre de stage de 2 ans en hôpital avant de, après ça, voir leur dossier examiné en commission. Mais il y a un régime dérogatoire qui a longtemps existé puis qui permettait aux hôpitaux de recruter des non-lauréats sous divers statuts vraiment précaires, par exemple rémunérés entre 1 500 et 2 200 euros net par mois, ce qui est nettement en dessous du salaire d'un médecin français pour faire exactement les mêmes tâches et avec les mêmes responsabilités. Et donc, le truc, c'est que ce régime temporaire-là, qui avait été plusieurs fois prolongé, ben est définitivement terminé depuis le 31 décembre. Donc, impossible aujourd'hui de renouveler leur contrat. Puis là, ils devaient tous aussi réussir les épreuves requises cette année là pour continuer à exercer. Sauf que pour ces épreuves-là, puis pour avoir le droit d'exercer, ils ont 10 000 candidatures au concours, dont une partie là qui provient de l'étranger, pour 2 700 postes ouverts. Donc, c'est presque impossible d'être retenu.
Ouais.
Ils ont aussi, pour certains qui ont été licenciés le 31 décembre, ils ont aussi reçu des obligations de quitter le territoire français donc, on va évidemment là, c'est ça, suivre les développements dans ce dossier-là. Je termine avec une affaire judiciaire. Tu parlais tout à l'heure des mineurs isolés, non accompagnés. Il y a le procès dit des petits voleurs du Trocadéro, dans laquelle le tribunal correctionnel a rendu son verdict à la mi-janvier. 6 Algériens âgés de 23 à 39 ans ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains aggravée sur des mineurs étrangers isolés, de trafic de stupéfiants et de psychotropes et de recel de vol pour des faits qui ont été commis entre janvier 2021 et juin 2022. Ils ont reçu des peines d'un an à 6 ans de prison ferme, d'amendes allant de 5 000 à 8 000 euros et interdiction définitive du territoire français. Je vous explique, c'est que...
Oui, parce que Petit voleur du Trocadéro, ça sonne comme un film de Truffaut, là,
quasiment. Oui, non, mais pas tellement. Vous allez voir que l'histoire, c'est assez... pas très reluisant. Pendant un an et demi, ce groupe d'hommes-là a utilisé un stratagème vraiment odieux, donc pour enrôler des mineurs marocains, dont le plus jeune n'avait que 7 ans. Après les avoir repérés, ils gagnaient leur confiance. Et bon, on le sait, pour ces enfants-là, complètement seuls, perdus dans la ville, ben ces hommes-là devenaient leur seul repère, un peu comme des grands frères. Puis là, c'est là que leur emprise commençait. Donc, les hommes leur fournissaient d'abord gratuitement divers psychotropes, dont un antiépileptique, du rivotril, du cannabis, de l'ecstasy. Résultat, une désinhibition totale qui rendait les enfants à la merci des trafiquants. Et donc, pour se faire de l'argent, ces derniers obligeaient ensuite les victimes à voler des touristes et des passants. Les jeunes devenant de plus en plus dépendants, ben plus ils consommaient, plus ils devaient voler pour se payer leur dose.
Ouais, c'est le cercle vicieux habituel.
Exact. Hein. Mais quand même, dans cette histoire-là, ce que les avocats de la défense ont plaidé puis continuent à dire, c'est que quand même, les victimes puis les trafiquants sont liés par une chose, c'est-à-dire la misère et un parcours migratoire identique fait de désillusions, de squats et de débrouilles. Puis en plus, ben comme certains trafiquants sont à peine plus âgés que les victimes, les avocats ont fait valoir que l'accusation de trafic d'êtres humains est exagérée. Il s'agit apparemment d'un phénomène assez répandu. L'association Hors la rue, qui vient en aide aux mineurs isolés sans-abri, a comptabilisé 218 jeunes dans cette situation en 2 ans, depuis les 2 dernières années.
À Paris, dans d'autres villes, j'imagine?
À Paris.
À Paris?
Ouais.
Il y a des victimes qui deviendront peut-être des trafiquants, entre guillemets, aussi, parce que ce sera tout ce qu'ils auront connu, en fait.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces actualités françaises. On va aller tout de suite en musique avec Anna Tijoux, la pièce d'Imé Ké.
Cuando algo explota, rabia siento cuando el mundo me provoca. Fuego expulso cuando tengo el alma rota. ¿Quién puede pagar lo que mi corazón me brota? Como Kali Yuga los derroco, se ahogan en la bruma con mi son. Tomo mi cuaderno, mi rima, mi plumón. Subo de la cordillera, viejo el cinturón de León. Y pues la tomo yo, una bomba. Voy iluminando cada sombra. Como un holograma con color. Como que yo soy la serpiente 7-7 que nadie toma. Se detona la neurona. Experta en el reguentonan. Se clonan, clic, clic, clac, las ideas se enrolan. Con mi clica, no me digas, sabe que te pica, luego te complica. Odio grita, acá no califica, no sé nada, hay crítica, solo tú te crucifica. Ale, ale, yo sé que te duele. Mírame, nene, abriré, llegaré, subiré, entraré como reina donde jamás han pisado tus pies. La paya no falla, me traigo esta saya por toda medalla, por donde yo vaya, mi boca no calla. La bomba que estalla subiendo muralla, entalla la falla, no tiro toalla en ninguna batalla. Llevo dentro. Lava fuego ardiendo al centro, entre vuelve el epicentro, me concentro como el viento, eterno movimiento. Piensan que soy bueno, otros malos, soy bacano, pero más el daño y te la hago de vuelta. Las vueltas son las que dejan, pero extraño a mis hermanos que salieron y ahora están atrás de rejas. Los cuicos y los frentes se asemejan, crecen sin amor y familia compleja. Somos dos distintos pero iguales, no diferencian en los tribunales. Ellos tienen preferencia y nosotros penitencia, tienen justificada la violencia. Violadores con poder les dan beneficio y a los pobres ni les dan beneficencia. La ciencia nos hizo ser humanos, pero ser humano a algunos giles les cuesta. Los políticos roban la plata con la que tu abuela paga la cuenta. Dime qué, dime qué. Dime qué, dime por qué, qué. Dime qué, dime por qué. Dime qué, dime por qué. Pocas oportunidades generan criminales. La cárcel es negocio, pa' jueces y fiscales. Son todas filiales del mismo gobierno. El reo vive del Paco y el Paco del interno. ¿Para qué vamos a meternos más adentro? Te estoy diciendo cosas que nadie quiere escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por eso, mi amigo, ahora está en un mural.
On entendait Anna Tijoux, rappeuse chilienne basée à Paris. C'est une nouveauté au palmarès international de Choc. La pièce d'Imé Ké en collaboration avec Pablo Chill, trait d'union I, Chili, Chill,
Chili. Cas,
qui est lui aussi rappeur chilien. C'est de l'album Vida, sorti en janvier. Maintenant, un suivi sur le décès de Anna Karen Vasquez Flores, retrouvée morte dans une petite rivière près de Champlain dans l'État de New York alors qu'elle venait de traverser la frontière du Canada vers les États-Unis, donc le chemin inverse de ce à quoi les médias nous ont habitués. Elle voulait aller rejoindre son conjoint aux États-Unis. Lui avait le visa pour s'y rendre, mais elle, non. Petit aparté en passant, c'est un phénomène qui devrait s'amplifier, avoir de plus en plus de personnes migrantes mexicaines particulièrement qui traversent du Québec vers le Vermont ou vers l'État de New York parce que la croyance avérée ou non veut qu'actuellement ce soit plus facile de rejoindre les États-Unis en prenant un billet d'avion pour le Canada, souvent pour Montréal, et de traverser ensuite en se faisant reconduire près de la frontière, finir le chemin à pied à travers champs et boisés, plutôt que d'essayer de traverser la frontière États-Unis-Mexique, qui on le sait est très sécurisée, très dangereuse. Il y a les autorités états-uniennes qui ont formellement demandé l'extradition du passeur québécois Augusto Uribe Tobar, avec qui avait fait affaire Mme Vasquez Flores. Il était assez actif dans la région. Il demandait 2 500 $ par personne, selon ses publicités sur TikTok. Et oui, il annonçait ses services assez ouvertement. Il semblait pas beaucoup plus scrupuleux quant au succès de ses opérations ou à la sécurité de ses clients, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, on a appris dans la partie de la preuve qui a été rendue publique récemment qu'il n'accompagnait pas physiquement ses clients. Il les véhiculait jusqu'à une route secondaire près de la frontière. Et par la suite, les clients se débrouillaient avec les réponses qu'ils voulaient bien leur donner par texto. Mmh. On donnait quelques indications au sortir de la voiture. Il leur disait sûrement quelque chose comme « Vous allez voir, c'est facile. Je vais rester près de mon portable. Si c'est nécessaire, vous me textez. Je vous répondrai rapidement. » Le cas de Mme Vasquez-Flores, qui en plus était enceinte, démontre clairement que se faire guider à l'aveuglette par message texte, surtout à pied, la nuit, avec le froid de l'hiver qui décharge les batteries de cellulaire rapidement, ben ça fonctionne vraiment pas. Et à quel point le monsieur répondait rapidement et de manière précise au texto, ça on le saura plus tard, j'imagine. Et 2 500 $ pour un lift Montréal-Lacolle suivi d'une pseudo-veille par téléphone, ça me semble un petit peu cher.
Mmh, pas mal, hein?
Donc, extradition imminente, suivie d'un procès dans l'État de New York, qui nous en apprendra sûrement plus sur cette personne et peut-être aussi sur les réseaux de passeurs en général, comment c'est organisé, leur façon de fonctionner. Donc, ce sera intéressant à suivre, en attendant d'avoir des ententes frontalières qui n'obligent pas les personnes à se mettre en danger. J'évoquais la frontière Mexique-États-Unis. Il y a actuellement un différend entre le fédéral et l'État du Texas sur, entre autres, la présence de barbelés installés près de la ville de Eagle Pass sur ordre du gouverneur Abbott, un des plus fervents trumpistes dont on a parlé quelques fois. La gestion des frontières, c'est fédéral et pour Washington, il n'y a pas question que chaque État frontalier se mette à faire n'importe quoi, donc bras de fer judiciaire entre Austin et Washington qui dure depuis quelques temps. On frôle parfois le psychodrame en assistant même à des blocages d'accès ou prises de contrôle de certains points stratégiques, des invectives, des bousculades sur le terrain entre la police fédérale des frontières et la garde nationale du Texas. Je vous cite un porte-parole de la Maison-Blanche qui réagissait à la mort de 3 Mexicains début janvier. Vendredi soir, une femme et 2 enfants se sont noyés près d'Eagle Pass parce que les autorités du Texas ont empêché la police fédérale de leur porter assistance. Qui dit vrai, je sais pas, mais ces démonstrations de force entre corps de police, cette surenchère de moyens de protection, ça aide certainement pas à rendre la frontière plus sécuritaire.
Après les barrières flottantes, les barbelés. Hein?
Qui sont toujours là, les barrières flottantes, ouais, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment vrai pour ceux qui croient pas que ça existe sur le Rio Bravo, Rio Grande. Mm-hmm. Mathieu, on va traverser le Mexique au complet jusqu'à sa frontière sud et on arrive au Guatemala.
Oui, une histoire rocambolesque style Amérique centrale. C'est juste en Amérique centrale qu'il y a des histoires comme
okay,
ça.
OK, j'ai
politique. Je vais vous raconter le récit. Le 14 janvier dernier au matin, le président élu par les Guatémaltèques confiait à un média « Je suis enthousiaste à l'idée d'en finir avec un processus long et tortueux. » Bernardo Arévalo ignorait qu'il n'était pas encore au bout de ses peines. Prévu pour se dérouler en début d'après-midi, la cérémonie de remise de l'écharpe par son prédécesseur Alejandro Giammattei n'a pu se dérouler que vers minuit après des heures de grande tension. La cérémonie protocolaire devait intervenir après l'installation de la nouvelle Chambre des députés, élue le même jour que le président en août dernier. Mais des élus de droite ont joué à l'obstruction et prolongé jusqu'à l'absurde les débats.
C'est quoi, ils ont arraché l'écharpe ou quoi?
Oh non, ça s'est arrêté à la limite. Ils l'ont détruit, ouais. La majorité des députés ont notamment fait valoir que les 23 élus sur 160 de Semilla, le mouvement Semence, qui est le parti de centre-gauche du nouveau président, ne pouvaient pas siéger en raison d'une invalidation prononcée par le parquet il y a quelques mois de leur parti. Après des heures de débats houleux, c'est finalement un élu de Semilla, Samuel Pérez, qui a été désigné président de la Chambre. Pendant la journée, les ministres des Affaires étrangères invités à la cérémonie se sont réunis afin de chercher une alternative au comportement de l'opposition parce que...
Les ministres des pays voisins?
Les présidents, ils attendaient toute la journée. Là, il y avait le prince d'Espagne. Il y avait,
c'est très chic. Comme tu dis, c'est un vrai film. Là,
le président du Chili, Boric, etc. Le coup de gueule le plus retentissant est à mettre au crédit du président colombien Gustavo Petro qui a dit « Je ne quitterai le Guatemala que quand... » Ravelo sera investi, même si je dois manquer le sommet de Davos cette semaine.
Oh non, avec ces petits fours, là.
Cette ultime tentative de torpiller l'alternance démocratique illustre la panique d'un clan qui a tenu les rênes du pays depuis la fin des régimes militaires en 1986. Le pacte des corrompus, comme l'a baptisé la presse, réunit autour d'intérêts communs le patronat, la majorité de la classe politique et de nombreux éléments de l'armée. Tous redoutent aujourd'hui de devoir rendre des comptes devant la justice pour détournement de fonds et corruption et concernant les militaires pour les années de guerre civile entre 1960 et 1996, dont le bilan est évalué à 100 000 victimes tuées dans le cadre de la répression contre les opposants, les syndicalistes et les paysans. On est au Guatemala, on s'en rappelle. Pour désamorcer les enquêtes sur la corruption qui visait notamment son entourage proche, l'ancien président Giametti avait nommé procureur de la République une de ses fidèles, Maria Consuelo Porras, qui a orchestré les poursuites contre Arévalo, le nouveau président, et son parti après le second tour, et a même tenté de faire annuler le scrutin. Plusieurs magistrats qui instruisaient des dossiers délicats de corruption ont aussi été menacés et ont quitté le pays. Dans les mois qui ont suivi la victoire d'Arévalo, différentes branches de l'État, dont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le tribunal électoral, ainsi que le bureau du procureur général, tous compromis avec le crime organisé, ont pris des mesures extraordinaires pour bloquer l'entrée en fonction du président élu. Même des partisans du parti ont été arrêtés et des magistrats du tribunal électoral qui penchaient en faveur du nouveau président ont également été menacés de poursuites. À cela s'est ajouté les efforts visant à lever l'immunité juridique du nouveau président et de sa vice-présidente, ainsi que les députés de son parti au Congrès, afin de les poursuivre sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, telles que l'expression sur les médias sociaux d'un soutien aux manifs étudiantes en faveur de la démocratie.
Ça, c'est criminel. OK, d'accord.
Voilà, mais ils ont essayé. De nombreux défenseurs et responsables de la lutte contre la corruption ont été inculpés, emprisonnés ou contraints à l'exil dans le cadre d'une perversion inquiétante et générale de la justice au Guatemala en cours depuis le fameux départ de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala qui gérait un peu l'après-guerre civile. La commission est partie en 2019. Donc, accompagné par la vice-présidente Scarin Herrera, Bernard Arévalo s'est mobilisé pour obtenir des appuis au niveau international. Au cours des derniers mois, l'OEA, l'Union européenne, l'Espagne, les États-Unis, le Chili, le Mexique, le Paraguay ont fait pression sur l'ancien président et l'État pour assurer la reconnaissance des règles démocratiques au Chili, au Guatemala.
Et qu'il desserre les mâchoires un peu. Là.
Ouais. Pour revenir au 14 janvier, ben, dans cette fameuse journée, c'est qu'en fin d'après-midi, devant le Congrès, il y avait des milliers de manifestants, en bonne partie autochtones, qui étaient rassemblés devant le Congrès pour rappeler le respect de l'État de droit. Puis il faut savoir, pour parler des Autochtones un peu, que le Guatemala est divisé depuis plusieurs décennies. Les groupes indigènes, qui représentent la majorité de la population, sont concentrés dans les zones abandonnées du Nord. Et le pays est un des pays les plus pauvres actuellement, entraînant une vague massive ouais. d'immigration vers le nord global, entre autres.
Avec Honduras, El Salvador, entre autres.
Oui, exactement. Mais le Guatemala, c'est plus récent.
Okay.
Un élément important a été la mobilisation en faveur du nouveau chef de l'État des communautés autochtones Maya, traditionnellement éloignées des débats politiques, mais depuis une vingtaine d'années, sont de plus en plus impliquées et elles représentent, comme je disais, plus de la moitié des 18 millions d'habitants du pays.
Ah oui.
Dans les derniers mois, guidés par les autorités ancestrales autochtones, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre le processus démocratique et l'État de droit au Guatemala. D'importantes manifestations ont secoué le pays pendant une grande partie des mois d'octobre et novembre. Les autorités ancestrales ont fait aussi l'objet d'une grande répression, d'importantes représailles, pardon, menaces, criminalisation, assassinats, dont celui du leader Xinka, Noé Gomez, tué le 29 octobre dernier. Les conflits en région rurale augmentent également. Les propriétaires terriens et l'agro-industrie ont profité de la distraction causée par la remise en question de la transition démocratique pour procéder à des déplacements extrajudiciaires de communautés autochtones. Parfait. Donc, si ça s'est bien passé pour le nouveau président après des mois d'enfer et plusieurs heures le jour de la cérémonie...
Une longue télénovelle.
Exact. C'est en partie grâce aux Autochtones qui se sont beaucoup mobilisés. Je vous recommande, en terminant, de lire deux articles qui datent de novembre, mais qui parlent un peu de la situation au Guatemala. C'est vraiment intéressant sur toute l'évolution des dernières années. C'est sur le site du CDHAL, Comité des droits humains en Amérique latine, daté des 8 et 9 novembre. Les deux titres, c'est « Guatemala 2023, un volcan qui est là pour rester » et « Les communautés, leur autorité et la politique récente au Guatemala ». Donc, c'est vraiment fascinant. J'ai fait un résumé là, un peu romancé. Là. Pas romancé, mais avec un style. Mais c'est vraiment...
Non, mais ça donne l'envie de suivre l'actualité au Guatemala.
Un genre de télénovela politique.
Plein de rebondissements. Donc,
mais pour l'instant, ça se finit bien. Mais là, les corrompus, là, ils sont toujours là. Puis ils vont sûrement essayer de faire des choses contre le nouveau président. C'est
à,
sûr.
Suivre. À suivre. Donc, dans quelques instants, on poursuit sur notre lancée d'actualité internationale. Petite incursion en Afrique de l'Est, plus précisément au Soudan, d'abord dans une région qui avait été épargnée par les combats, l'État de Djezira. Au sud de Khartoum, la capitale, les paramilitaires de deux sortes de généraux ennemis, Daglo et Fatah al-Burhan, je crois, les anciens numéros 1 et 2 du pouvoir militaire soudanais. Ils s'affrontent dans l'état de Jizira depuis le mois de décembre, ce qui a provoqué, selon l'UNICEF, la plus grande crise de déplacement d'enfants au monde, environ 150 000 enfants déplacés, dont la plupart se retrouvent encore coincés entre deux fronts, donc n'ont pas réussi à trouver un abri sécuritaire. En ajoutant ce nombre de 150 000 enfants, ça porte le nombre total d'enfants soudanais déplacés à 3 millions. Un peu plus à l'ouest, dans la région du Darfour, dans le Darfour Ouest, plus précisément à la frontière du Tchad, toujours les mêmes deux généraux dans le cadre de combats qui, dans ce cas-là, durent depuis plus longtemps. Les missions de l'ONU sur le terrain dénoncent des crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique qui vise les civils de la communauté des Massalites, ethnie sunnite non-arabe majoritaire dans la petite ville de El Jinaina, où environ 15 000 membres de cette communauté ont été tués en raison de leur appartenance ethnique, alors que les milices visaient délibérément les camps de déplacés, les écoles, les mosquées, les hôpitaux et aussi les maisons et sièges des ONG internationales elles-mêmes. Les milices du général Daglo tiraient à vue sur des véhicules en mouvement, sur des piétons, femmes, des enfants. Une véritable boucherie, paraît-il. Donc, il y a un dossier qui est en train d'être monté par des experts pour mettre en cause le rôle des clinquants Émirats arabes unis dans l'armement très lourd et sophistiqué qui a été livré aux paramilitaires du général Daglo. Dans quel but stratégique ou économique, on ne sait pas encore. Donc, probablement une manière de placer ses pions dans cette région africaine qui est pleine de matériaux critiques. Donc voilà, on remonte quelques milliers de kilomètres au nord, on passe à un autre conflit armé, Mathieu.
Oui, les minéraux critiques, hein, je te dis, quel fléau.
Oui, ben c'est ce qui est en train de redessiner quasiment l'ordre sécuritaire ou militaire mondial.
Politico, mais militaire mondial, oui, tout à fait. Ben oui, je voulais vous parler du génocide culturel à Gaza et en Cisjordanie, en Palestine finalement, parce que c'est un aspect dont on parle moins. En termes de patrimoine culturel, éducatif et historique, mais il y a beaucoup... J'ai lu plusieurs articles que j'ai extrait certains éléments là, pour faire un petit résumé. Je vais donner quelques exemples en premier. Les bombardements israéliens ont endommagé de façon importante l'église grecque orthodoxe qui s'appelle Saint-Porpyre à Gaza. Il y a eu aussi la destruction à Jénine du sanctuaire en hommage à la journaliste américo-palestinienne Shirin Abu Akleh, dont on a parlé
ici à l'émission. Il y a quoi, 2 ans peut-être?
À peu près abattu par un soldat israélien. Un bulldozer israélien a démoli des monuments en mémoire de Yasser Arafat en Cisjordanie, à Ramallah. C'est sympathique aussi. La bibliothèque publique à Gaza a été détruite par un bombardement fin novembre, tout comme Mekdad Printing Press and Library, l'une des plus anciennes bibliothèques de Gaza.
Tout y passe. Souvent, on voit passer ça vite aux nouvelles. On pense que c'est juste des bâtiments neutres.
Abandonnés, quasiment.
Il y a de la vie.
Il y avait une vie culturelle, entre autres, évidemment, et sociale.
Un patrimoine.
C'est ça. Il faut savoir qu'Israël a tué au moins 15 poètes et écrivains à Gaza. Ça, c'est au moins parce qu'il y en a beaucoup disparus. Par exemple, les tirs de missiles guidés par intelligence artificielle ont éliminé le poète Nour El-Din Agag, dont on aura pu lire quelques jours avant sa mort la déchirante lettre d'adieu au monde qui a circulé dans les réseaux pro-palestiniens. En date du 8 janvier, plus de 80 journalistes, en très grande majorité palestiniens, ont été tués à Gaza. Depuis le début de l'agression, en Cisjordanie, les autorités occupantes ont mené de vastes campagnes d'arrestation touchant divers segments de la population dans une variété d'endroits, dont particulièrement les étudiants et les professeurs en Cisjordanie. Le nombre de détenus entre le 7 octobre et la fin décembre était de plus de 5000 nouveaux détenus, sans compter des centaines d'arrestations plus ou moins officielles à Gaza. Il y a eu une tribune dans Mediapart le 30 janvier qui s'appelle « Empêchons l'assassinat de la culture palestinienne », signée par des artistes, des personnalités européennes, entre autres, et aussi du monde arabe. Je vous lis 2-3 extraits. « À travers les activités artistiques et les institutions culturelles, l'existence même du peuple est visée. Massacrer l'enfance et la jeunesse, détruire les installations éducatives, abattre les porteurs de sa culture, c'est assassiner un peuple. » Le Théâtre de la Liberté avait joué sans interruption et enseigné l'art dramatique dans les territoires occupés en surmontant tous les obstacles et rayonnant partout dans le monde depuis sa fondation en 2006 au milieu du camp de réfugiés de Jenin. Ça a été fondé par l'artiste israélo-palestinien Giuliano Mer Kamis, qui a été assassiné en 2011 par l'armée israélienne. Le 13 décembre dernier, c'est le camp a été saccagé par l'armée, ses animateurs battus et incarcérés. À ce jour, le directeur et le président du théâtre sont toujours détenus sans motif. Plus qu'un symbole, c'est une stratégie à travers les activités artistiques et les institutions culturelles. L'existence même du peuple est visée. Ça, je pense que je vous l'ai dit tantôt. Au-delà de la seconde Nakba...
C'est bon de le répéter.
Oui, c'est une phrase un peu différente. Au-delà de la seconde seconde Nakba, déjà programmée par de hauts responsables civils et militaires. Il faut que cette fois et pour de bon, le peuple palestinien soit décimé, décomposé, exclu de sa propre terre, de sa propre histoire. En date du 30 janvier, Israël a délibérément ciblé et tué 94 universitaires palestiniens lors de raids aériens sur leur maison à Gaza, y compris le président de l'université islamique. Le professeur Soufiane Taillé, le professeur Refat Alarer, poète et fondateur de We Are Not Numbers, et aussi en plus 231 enseignants et 4327 étudiants qui ont été recensés comme tués, ça c'était à la fin décembre. Les frappes israéliennes ont visé 90% des bâtiments scolaires et éducatifs publics. Toutes les universités palestiniennes ont été pas mal détruites, notamment en plaçant des explosifs dans des campus vides dans le but de les raser et après que certaines universités aient été occupées et utilisées comme base militaire ou centre de détention, à Gaza toujours. Il a détruit entièrement ou partiellement 346 écoles, dont celle de l'ONU, à Gaza. Du côté de la Cisjordanie occupée, sous des prétextes juridiques fabriqués en vue de l'extension des colonies, les écoles sont détruites au bulldozer, à peine sorties de terre, comme récemment à Hébron et à Bethléem, parce que supposément situées en zone de tir.
Ah ouais, la fameuse zone tampon.
Ouais, exactement, autour des villages palestiniens ou des villes. Les attaques d'Israël contre l'éducation palestinienne ont été définies comme le crime d'éducaricide ou meurtre de l'apprentissage par le rapporteur spécial des Nations Unies, Balakshinan Rajagopal.
Marie-Ève, une minute.
Oui, parfait. Ben oui. 15 grandes universités palestiniennes ont déclaré que les universités israéliennes, complices de violations des droits de l'homme, devaient faire l'objet d'un isolement international. En terminant, je voulais vous souligner un site web en plusieurs langues, dont le français, qui s'appelle Passage Truth Genocide. C'est des textes de plusieurs écrivains et poètes palestiniens dans une dizaine de langues, dont certains sont malheureusement décédés. Ça, c'est au Gaza Passage, au pluriel, .com. Et je vais peut-être finir avec une citation raciste, Marie-Ève, si tu me le permets, mais on revient ici au Canada,
et même
en Colombie-Britannique.
Ah bon?
La ministre de l'Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, démissionne à la suite du tollé suscité par ses remarques selon lesquelles l'État d'Israël a été fondé sur un morceau de terre merdique, a crappy piece of land. Madame Robinson a présenté ses excuses à deux reprises, affirmant qu'elle suivrait une formation anti-islamophobie. Je la cite, « Mes propos étaient inappropriés, erronés, et je comprends maintenant comment ils ont contribué à l'islamophobie et au racisme anti-palestinien. » Ça a été une pas mal de tempête en Colombie-Britannique dans les deux dernières semaines.
C'est qui la crappy piece of shit, là, déjà? C'est-tu elle? Ou...
Non. Elle a déclaré qu'Israël a été fondé sur un crappy piece of land.
Ben, j'ai compris.
Ah, OK.
C'est une blague.
Seigneur, je me suis fait avoir.
Ben oui.
Donc, voilà, ça a dit ça dans une rencontre en Zoom. Et ça a été vraiment une grosse affaire en Colombie-Britannique, mais elle a finalement démissionné, donc, cette semaine.
Enfin, ben merci Mathieu. Tous ces chiffres sur les destructions à Gaza sont effarants.
Oh, j'en ai d'autres, mais c'est fou. Ouais.
On va aller en musique tout de suite avec Aoudjik.
Don't let it fly like an ostrich. Smoking on the gas, the trap looking like it's Auschwitz. Only talking business, we don't ever talk no gossip. Yeah, I drink, I don't sip, keep the raws on my lips. At the bar, giving tips, making bartenders rich. I'm fly than a bitch, new kick, smash the fit. Still fly, count on me, cause the place where I live. So I flex, what it do, I'm next, that's true. It's the pretty motherfucker coming from the triple two. Triple two. Boy, off the dialogue. Come on.
Une autre pièce du palmarès international des chocs, le projet Adjuic, la pièce Pujor Tatala, une collaboration entre Tarak, 666 God et Kiyuapik. C'est sur l'album Adjuic volume 2, sorti en novembre sur la maison de disques Akuluk Music. Adjuic, c'est un projet qui est né au Arctic Sounds 2023. Arctic Sounds, c'est un festival de musique annuel qui a lieu à Sisimiut, Groenland, et qui regroupe des compositeurs, des rappeurs du Nunavut et du Kalaallit Nunaat, le vrai nom du Groenland. Mm-hmm. Et on a rassemblé des musiciens dans un studio en Islande, hein, pourquoi pas, et ça donne cet album de 12 pièces assez intéressant dans plusieurs langues autochtones. Récemment, le Guardian nous apprenait, grâce à des documents australiens déclassifiés, que le Canada et l'Australie, à l'initiative du cabinet de Hans Chrétien, avait comploté en marge des négociations à l'ONU pour tenter d'édulcorer considérablement le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones au début des années 2000. Les deux pays voulaient proposer conjointement qu'on retire, entre autres, les références au génocide culturel, au conflit armé et à la restitution des terres, et qu'on rappelle l'intégrité territoriale et politique des États souverains que sont l'Australie et le Canada, ce qui aurait énormément affaibli la portée de la déclaration finale. La mention sur l'intégrité territoriale a été ajoutée à la déclaration. On a réussi à édulcorer certains éléments, comme pour la mention de génocide culturel qui s'est transformée en un court article comme quoi les peuples autochtones ont le droit de ne pas subir de génocide. Mais on a conservé intégralement la mention comme quoi les enfants ne doivent pas être retirés de leur communauté aux grandes dames de l'Australie. Ce qui est surtout intéressant dans les documents rendus publics, c'est qu'on apprend qu'il y avait vraiment une stratégie pour faire carrément dérailler les négociations. Et on identifiait pour certains enjeux des individus ou des communautés dits plus modérées ou ouverts aux discussions. Et on cherchait à les opposer aux partisans de la ligne plus dure pour briser toute forme de consensus chez les représentants des communautés autochtones. Finalement, malgré quelques amendements finalement acceptés, vous vous rappelez peut-être, l'Australie et le Canada avaient quand même voté contre la déclaration avec seulement deux autres pays, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de pays en Amérique latine, par exemple, Chili, Brésil, Colombie, qui aient voté contre à l'époque.
Mm-hmm. Mais Mexique,
entre autres. C'est quand même drôle, suite à ces révélations-là, de voir l'actuel ministre des Services aux Autochtones, Patty Adjou, une libérale, faire du patinage artistique en disant « Vous savez, chaque gouvernement libéral est différent, c'est une tâche dans nos relations avec les Premières Nations, les choses ont bien changé, on est ailleurs ». Peut-être lui rappeler que ça remonte pas à Wilfrid Laurier, mais au début des années 2000, et que son propre gouvernement, encore aujourd'hui, envoie la GRC fessée dans les Autochtones qui défendent leur territoire contre des minières ou des forestières. En Australie, ces révélations-là arrivent dans un contexte encore plus tendu où le traumatisme au référendum sur les droits autochtones est encore tout frais. Alors disons que ça ne vient pas beaucoup aider à la réconciliation. Donc Mathieu, on va rester dans notre beau dominium.
Oui, notre beau grand pays où c'est toujours les mêmes qui se font abattre par la police finalement. Dans le sens que au niveau de la couleur de la peau, entre autres, faut savoir que le 28 novembre dernier, un étudiant guinéen a été abattu par des policiers du service de police de Saguenay. Depuis, il y a eu veillée à chandelle, commémoration, et beaucoup de représentants de la communauté étudiante et communauté africaine au Québec, au Canada, se sont inquiétés que l'événement décourage les étudiants internationaux de choisir le Québec. Bon. Tu me diras, Simon, qu'il y a d'autres raisons actuellement pour les décourager au niveau financier.
Ah, le gouvernement est très créatif pour décourager le monde actuellement.
Exact. Puis la police participe peut-être à ça aussi. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent un peu de ce que ça peut donner comme message. Il faut dire que le jeune homme en question était étudiant à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui s'appelait Mamadou Saliou Baldé. Et pendant ce temps-là, quelques semaines plus tard, le 20 janvier dernier, des membres de la communauté noire de Winnipeg et plusieurs autres personnes ont rendu hommage à Afolabi Stephen Opasso, l'étudiant de 19 ans originaire du Nigeria qui a perdu la vie durant une intervention policière au début de janvier. La marche commémorative a débuté devant la gare Union et s'est poursuivie jusqu'au palais législatif du Manitoba à Winnipeg. Pour de nombreuses personnes, la mort de M. Opasso soulève des interrogations sur les circonstances de l'intervention de la police. La marche visait donc à réclamer justice aussi bien pour le jeune homme décédé que pour toute autre personne avec des problèmes de brutalité policière. La mort du jeune étudiant à Winnipeg a suscité des réactions au-delà du Manitoba. Une pétition a été initiée en ligne. Plus de 10 000 signatures ont été recueillies pour solliciter une intervention des autorités fédérales dans les enjeux de la police de Winnipeg. Donc, deux cas d'étudiants étrangers en quelques semaines. Et pendant ce temps-là, Radio-Canada nous apprenait que le SPVM s'est engagé à prendre une décision sur la légitimité du symbole de Latin Blue Line.
Ah oui, et quelle sera la décision? Est-ce qu'on le sait déjà?
Non, non, ben là, attends. Non. Wow, wow, wow. Donc, il s'est engagé il y a 3 ans à prendre une décision. Mais là, le SPVM espère s'attuer d'ici la fin du printemps, malgré sa connaissance de tous les éléments du dossier depuis 2 ans. Un comité éthique interne a d'ailleurs remis ses conclusions et à ses travaux en juin 2022. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps.
Ça tergiverse.
Oui, pour certains, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent moins, pour certains, porter l'écusson est un hommage aux policiers morts en service, mais il peut, pour d'autres personnes, avoir une connotation raciste, puisque le symbole a aussi été récupéré par l'extrême droite. Ouais. La Fraternité des policiers et policières de Montréal revendique toujours le port de l'insigne par ses agents, parce qu'il est considéré comme un symbole fort d'un mouvement de solidarité dans la profession. D'autre part, les groupes de défense des droits civiques et des populations racisées de Montréal s'y sont opposés farouchement parce que l'extrême droite américaine a récupéré ce symbole à des fins partisanes en lançant Blue Lives Matter en réponse au mouvement Black Lives Matter. Pas Matters Matter. Exactement. À l'heure actuelle, le port du symbole est toléré au SPVM, a déclaré la division des communications. À la Société du Québec, c'est aussi toléré. Au service de police de Laval et de Longueuil, la même chose. À Québec, au SPVQ, ben oui, je cite un officiel, pour la direction du SPVQ, cet emblème symbolise d'abord la place de la police dans la société, son rôle de protecteur des citoyens face aux criminels, mais également la commémoration du décès de policiers morts en service.
C'est une nouvelle interprétation très large.
Très large. La GRC, le service de police de Toronto, l'OPP, l'interdisent actuellement. Oui. Et en terminant, la Ligue des Noirs du Québec affirme que les policiers de Montréal ne peuvent en aucun cas, de manière légitime, arborer ou utiliser l'écusson de Tin Blue Line, un symbole que l'organisme associe au racisme et à la xénophobie et à la haine. Et quand même intéressant, Frédéric Boiron, sociologue et conseiller externe auprès du SPVM, déclare « À la fin de 2023, j'ai personnellement indiqué au directeur Fadi Daguerre que peu importe comment il tournait la situation pour trouver un compromis, il n'y avait pas de voie de passage pour faire accepter le symbole par les communautés culturelles. » Donc, on s'entend. Et le ministre Bonnardel refuse d'intervenir. Il dit que c'est chaque corps de police qui doit se décider de ça. Mais là, c'est un impasse parce que le SPVM doit finalement répondre à ça au printemps. Il y avait 4 scénarios. Puis dans les 4, c'était... Il gardait l'écusson d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il y a comme une impasse.
Il cherchait une excuse à chaque fois.
Oui, oui. Fadi Daguerre, quel homme.
Donc, dans un instant, on retrouve Marie-Ève. Donc, on va avoir un segment sur les violences envers les femmes migrantes avec Marie-Ève qui me retrouve enfin en studio.
Oui, entre autres, je commence quand même par parler de plus de détention des personnes migrantes. En fait, c'est que le...
Qui est une forme de violence, d'une certaine façon.
Oui, ben vous allez voir que chacun a chacun sa prison, comme on pourrait dire. Le média en ligne Pivot a publié un article super intéressant le 22 janvier. Justement, à propos du système canadien de détention des personnes migrantes, la journaliste s'est entretenue avec 2 anciens détenus, mais aussi, elle a aussi réussi à obtenir plusieurs données récentes de l'Agence des services frontaliers du Canada, la SSFC. On y apprend que en 2022-2023, le Québec était la 2e province après l'Ontario qui comptait le plus de personnes migrantes incarcérées, avec plus de 1600 détenus.
Bon, pas tout à Laval, j'imagine, mais certaines parties. Hein.
Et si la plupart d'entre eux, elles, sont détenues pour une durée de quelques jours ou d'un ou quelques jours, en 2023, 272 personnes migrantes sont restées plus de 99 jours en détention au Canada, dont 14 plus d'un an.
Oh.
Et sans surprise, ben les chiffres de l'agence révèlent aussi le caractère discriminatoire du système de détention. En 2023, les personnes détenues originaires d'Afrique subsaharienne ne comptaient seulement que pour 20% des libérations en 24 heures ou moins, alors que c'était le cas de 64% des personnes migrantes arrivant d'Amérique du Nord ou de 33% pour celles de l'Europe. On constate aussi que les personnes détenues d'Afrique du Nord ont été incarcérées sur une plus longue période en 2023. Au bout de 39 jours, 28 % étaient encore incarcérés, contre seulement 4 % pour les Nord-Américains et 11 % pour les Européens. Puis si on élargit la zone géographique, ce sont à peu près 23 % des détenus d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique du Sud et des Caraïbes qui ont passé plus de 39 jours en prison.
Donc, il y a clairement quelque chose relié à ton origine et sur la durée de ton incarcération.
Oui, bien, c'est ça. Puis si on allonge la durée, justement, bien là, c'est approximativement quasiment 14 % des détenus d'Afrique du Nord qui sont restés 100 jours et plus en prison, alors que c'est le cas pour seulement 2,5 % des détenus européens et 1 % seulement des détenus nord-américains. Mmh. Et aucune personne migrante originaire d'Europe est resté en détention plus de 180 jours en 2023, alors que pour les autres régions non occidentales, c'était environ le 8 % des personnes détenues pour plus de 180 jours. On sait que depuis plusieurs années, là, surtout depuis la pandémie, l'agence réduit le recours à la détention en se tournant vers des solutions de rechange comme la liberté sous caution, le bracelet électronique ou des formes d'assignation à résidence là, sous certaines conditions.
Bien, il y avait eu toutes sortes d'ententes avec les services provinciaux aussi. Je ne sais pas si on peut l'inclure là-dedans.
Non.
Non, OK.
Non, c'est une détention. Le 15 janvier 2024, 12 841 personnes sont soumises à ces solutions de rechange-là, selon l'agence. Je vous invite fortement à aller lire l'article de la journaliste Una Barrett sur Pivot, qui s'intitule « Détention des migrants et migrantes ». Un système jugé discriminatoire et arbitraire. Comme je le disais, il comporte un entretien avec deux anciens détenus, mais aussi avec un avocat spécialisé en immigration et droits humains. Autre suggestion, le quotidien Le Devoir a publié un excellent dossier sur la violence conjugale vécue par les femmes immigrantes, dont un balado intitulé « À double tour ». Dans les quatre épisodes, Sarah R. Champagne donne la parole à des femmes migrantes vraiment de divers horizons, puis explore aussi les obstacles additionnels qui les découragent là, de sortir du cycle de la violence. Elle parle aussi du poids considérable que les systèmes d'immigration ajoutent sur leurs épaules, mais aussi les défis que ça représente pour le réseau communautaire qui les soutient. Puis dans le cadre de ce dossier-là, Le Devoir a publié 4 articles d'enquête et il en ressort un constat inquiétant, c'est que les femmes immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales au Québec, chose qu'on savait un peu, mais au point qu'elles forment une majorité dans la région de Montréal. Dans les 46 établissements membres du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, les femmes immigrantes représentaient 69 % des femmes dans la région de Montréal et 51 % à Laval. Si on regarde la région là, de la capitale nationale, elles étaient 27 %, ce qui dépasse largement la proportion d'immigrantes dans la population générale qui est de 6,7 %.
Ben, on est dans les fois 4 fois 5. Là,
exact. Ouais. Puis la moyenne générale à l'échelle de la province était de 19 % pour ce qui est des hébergements là, du regroupement et de 26 % dans les maisons d'urgence de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Puis quant à l'alliance là, des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes, je vais vous expliquer c'est quoi. Pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, les immigrantes y ont représenté l'année dernière le 3/4 des femmes hébergées à Montréal et le tiers de celles hors métropole. La deuxième étape, c'est l'accès à un appartement là, puis à des services pour une durée plus longue après être passé dans un logement d'urgence là, pendant quelques mois. En moyenne, dans leurs 18 maisons présentement en fonction sur tout le territoire, c'était près de la moitié des femmes hébergées qui étaient nées à l'extérieur du Canada. Et ce qui inquiète là-dedans, outre ce portrait-là, ce qui inquiète encore davantage les maisons d'hébergement, c'est que les statuts précaires sont de plus en plus courants. Donc, demandeuses d'asile, étudiantes étrangères, travailleuses, femmes parrainées par son conjoint. Environ une femme sur 10 en hébergement n'a pas de statut permanent, selon les regroupements qui ont été consultés là, pour fin d'enquête par Le Devoir. Et c'est plus de trois fois, la proportion des femmes temporaires dans la population générale. Fait que il y a vraiment une disproportion. Puis les femmes qui détiennent un visa temporaire, on le sait, hein, font souvent passer le maintien de leur statut avant leur santé ou leur intégrité physique. Donc, c'est vraiment inquiétant comme portrait.
Inquiétant, puis sujet qui ne semble pas être pris au sérieux ou même su des autorités.
Ben avec des ressources en hébergement qui sont déjà en surcapacité, hein, puis avec des ressources très limitées, ben c'est ça.
Ben merci pour cet éclairage sur des sujets dont on parle peu, en fait. Donc, on se retrouve dans un instant pour l'agenda. D'abord, une vigile de solidarité avec les personnes injustement détenues en Algérie, organisée par Amnesty International, prévue le 22 février. Si vous l'aviez mis à votre agenda, sachez que c'est annulé. Maintenant, une campagne d'envoi de courriel qui s'appelle « Passez à l'action », dites au ministre d'accorder à tous toutes des soins de santé, quel que soit leur statut d'immigration. Le contexte, c'est que dans le cadre d'une longue démarche juridique, le Canada doit se rapporter d'ici au 12 février au Comité des droits de l'homme des Nations unies sur son intention de se conformer à la directive que lui a donnée le comité, soit d'accorder des soins de santé essentiels aux migrants en situation irrégulière. Vous trouverez les modèles de messages en anglais et en français, ainsi que les coordonnées des ministres de la Santé, de la Justice, etc., dans le site de la Coalition canadienne de la santé, healthcoalition.ca. Dans le même ordre d'idée, une campagne de sociofinancement pour M. Roy, qui fait l'objet de campagnes de soutien, entre autres de Solidarité sans frontières, depuis un bout de temps, ce qui lui a permis d'échapper à la déportation en septembre, puis d'être libéré de la prison pour migrants en octobre. Donc, sa déportation avait été annulée suite aux pressions exercées sur le ministre, puisqu'en raison d'un caillot à la jambe, prendre l'avion aurait pu le tuer carrément. Il est maintenant en convalescence, donc sa déportation est toujours en suspens, mais suite aux interventions médicales non couvertes, il doit rembourser le gouvernement, de là la campagne de sociofinancement. C'est un GoFundMe que vous pouvez trouver en cherchant des nouvelles et un appel au soutien pour M. Roy. Mercredi 14 février, une marche pour les femmes, filles, trans autochtones et personnes de spirit disparues ou assassinées. C'est organisé par le projet Isqueur, qui juge que depuis le dépôt en 2019 du rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, trop peu de choses ont changé. C'est donc un rendez-vous en parole, en échange, en musique et en art pour une marche mémoriale, donc mercredi 14 février, 18h. Rendez-vous près du métro Atwater au Square Cabot. Toujours la même soirée, lancement de la saison hiver 2024 de l'UPOP, soirée en deux parties. D'abord, le dévoilement des cours par les profs qui vont les donner, et ensuite, présentation par Pierre Serré de son livre « Voyage au bout de la mine », c'est chez Éco-Société, sur les pratiques catastrophiques de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Donc, lancement de l'UPOP saison hiver 2024, mercredi 14 février, ouverture des portes 18h30, c'est à l'Espace Libre à Montréal, sur la rue Folhomme, juste au sud d'Ontario, métro Frontenac. Faut pas oublier que février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc 1 million d'activités à choisir dans moihistoiredesnoirs.com. Même s'il y a une conseillère municipale, Lisa Robinson, à Pickering, Ontario, qui a dénoncé le mois de l'histoire des Noirs dans une lettre ouverte publiée dans le journal Oshawa Durham Central, elle dit qu'on ne devrait pas célébrer une race plus qu'une autre parce qu'on a fait beaucoup de progrès depuis l'esclavage. Donc, cette madame a déjà été suspendue de ses fonctions pour des comportements et propos homophobes et transphobes dans le passé. Donc, est-ce qu'on est surpris?
Bravo, championne!
Bravo, Lisa! Donc, on n'avait pas eu... Oui, on avait eu une citation raciste. On en a eu deux aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Les Apatrides Anonymes, édition du 8 février 2024. Marie-Ève nous fait des cœurs en main et non des patates comme Manon Massé. On est en rattrapage ou en direct sur choc.ca tous les deux jeudis 18h30 et aussi dans l'Ouest à la radio OFM Radio Victoria. Salut à tout le monde from coast to coast to coast.
Oui,
oui, ben merci de m'encourager. Nos coordonnées, on est sur FB, malheureusement. Encore des cœurs de Marie-Ève.
Mais il y a plein d'informations sur des mobilisations, ça vaut la peine.
Oui, 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 on met quand même des liens vers toutes sortes d'informations autres que des grands médias canadiens.
Exact.
Aussi, on a aussi un courriel, évidemment, apatridesanonymes, tout au pluriel, à resist.ca, notre site web apatridesanonymes.info. Merci beaucoup à vous deux, Marie-Ève Mathieu.
Merci Simon.
Merci à toi Simon.
Tu as animé cette édition d'une main de maître.
Ah oui, à tambour battant. Donc très ben, merci.
Très bon agenda Simon. Vraiment, bien concis et bien précis.
Merci, merci. On se flatte, flatte, flatte. Donc et merci à vous, hein, tant qu'à être dans le
flattage. Merci au public.
Ben oui, qui crie à tout rompre là. Donc merci pour beaucoup d'informations, toujours bien livrées. On apprécie votre travail de recherche, Mathieu Mariève, d'analyse, de synthèse et votre humour, malgré la gravité des sujets qu'on aborde.
Oui, oui.
Donc, on se retrouve normalement le jeudi 22 février, dans deux semaines, 18h30. Pour l'instant, on va se laisser en musique avec une pièce instrumentale de Cosma Vermont, un groupe post-rock shoegaze d'Ottawa, la très appétissante pièce Transcendental Pancake de l'album Spectral Fracking, paru en 2023 sur Kutchabata. Je rappelle le nom du band Cosma Vermont.
Et la pièce Crêpe Transcendentale.
Exactement.
On les a vus en concert avec Ce qui nous traverse à l'automne dernier.
Ah, ça devait être
très bon.
C'était eux autres,
ouais,
OK. Ouais.
Ça devait être pas mal bon, ça.
Oui, c'était bon, oui.
Donc, ben voilà, salut Marie-Ève, salut Mathieu, salut tout le monde. Tout le monde, on souhaite que vous vous portez bien et à très bientôt.